Elle s'est mise en tête de se convertir, rejoindre notre camp.
Il est 13h.
Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, une heure de plus ici à Paris. L'heure du journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une de ce journal, l'Iran ne cédera pas aux demandes excessives des États-Unis sur son programme nucléaire. Déclaration du président iranien, fragilisé par les récentes manifestations dans son pays en ce jour d'anniversaire de la révolution islamique. Nous serons avec notre correspondant dans ce journal. L'affaire Epstein et ses conséquences en France, avec la mise en cause d'un diplomate français, Fabrice Hédan. Le ministre des Affaires étrangères se dit effaré, nous l'entendrons dans ce journal. Au Canada, l'émotion après une fusillade à Tumbler Ridge. 10 morts et une trentaine de blessés sont à déplorer. Le Premier ministre canadien s'est dit bouleversé. En Thaïlande, les accusations d'irrégularité concernant les législatives continuent. Ces élections ont été remportées par le parti conservateur. La commission électorale, l'organe chargé d'organiser le scrutin, est au cœur de la polémique. Et puis l'entreprise Renault annonce un virage inattendu. Le constructeur automobile français pourrait assembler jusqu'à 600 drones par mois sur son site du Mans. On en parle en fin de journal.
RFI Midi. Le pouvoir iranien sous pression américaine célèbre aujourd'hui le 47e anniversaire de la révolution islamique.
Et à la veille de cette commémoration, des Iraniens étaient sortis dans la soirée sur leur balcon dans des quartiers de la capitale, scandant des slogans tels que « mort au dictateur » et « mort à la république islamique » selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Le pouvoir, lui, a fait plusieurs déclarations à l'occasion de cette journée anniversaire, notamment sur ses relations avec Washington. Notre correspondant Siavosh Ghazi était place Azadi à Téhéran.
Cette année, le drapeau iranien dominait largement les différents défilés à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. En revanche, peu de drapeaux du Hezbollah ou du Hamas, comme ça a été le cas les années précédentes. Une dizaine de missiles balistiques ont été exposés sur la place Azadi, notamment des missiles qui avaient été tirés en juin dernier contre Israël, une manière de montrer que l'Iran ne cédera pas sur son programme balistique. En revanche, dans son discours, le président Pezeshkian a affirmé que l'Iran était prêt à un accord pour donner toutes les garanties sur le caractère pacifique de son programme nucléaire, mais pas question de céder sur la pression et les menaces. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé également que l'Iran et les États-Unis pouvaient signer un accord meilleur que l'accord de 2015, l'accord d'Obama. Un petit message au président américain Donald Trump qui dénonce régulièrement l'accord de 2015 en affirmant que l'ancien président américain avait signé un très mauvais accord avec l'Iran.
Voilà pour ces propos de notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. L'Iran ne cédera pas aux demandes excessives des États-Unis sur son programme nucléaire. C'est ce qu'a donc déclaré le président iranien, fragilisé par les récentes manifestations en ce jour d'anniversaire de la révolution islamique de 79. Et à Washington, justement, Donald Trump reçoit le Premier ministre israélien. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou veut convaincre le président américain d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Avant cette rencontre, la 7e depuis son retour au pouvoir il y a un an, Donald Trump a multiplié les signaux mouvants entre espoir d'accord et menace militaire contre Téhéran.
Et dès son arrivée à Washington hier soir, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec l'émissaire américain Steve Witkoff, avec aussi le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Outre la question iranienne, les dirigeants doivent parler de la situation dans la bande de Gaza.
Le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas est fragile et le plan en 20 points de Donald Trump est au point mort. Par ailleurs, dimanche, le cabinet de sécurité israélien a validé des mesures qui faciliteraient l'achat de terres par les colons israéliens en Cisjordanie occupée. Des mesures qui confèrent également d'autres pouvoirs à Israël, des pouvoirs plus étendus dans ce que les Palestiniens considèrent comme le cœur d'un futur État. La décision israélienne a suscité une condamnation internationale.
Donald Trump, qui garde aussi un œil sur les conséquences du déclassement de certains dossiers par la justice américaine dans l'affaire du pédocriminel américain Jeffrey Epstein.
Et parmi ces conséquences en France, des faits révélés hier et mettant en cause un diplomate français, Fabrice Hédan, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein, fait réagir le ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot s'est dit effaré, indigné, tout en lançant une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire. Il était interrogé par nos confrères de RTL ce matin.
D'abord, les faits qui sont allégués sont d'une très grande gravité, mais je vous interdis
de laisser entendre que cela éclabousserait les agents du ministère des Affaires étrangères, dont je veux saluer le professionnalisme et l'engagement, et qui n'ont pas à être bêlés à tout cela. Oui, quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant.
Est-ce que vous craignez qu'il y en ait d'autres ?
C'est pas de l'inquiétude, c'est de la détermination. Ces fuites massives de documents soulèvent des soupçons graves sur des méfaits commis par des personnes individuelles, mais aussi d'influence, d'interférence dans la vie politique de pays européens dans la France. Et il me semble que que la place de ces documents, c'est dans des tribunaux.
Voilà pour ces propos de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. A noter que la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, a encouragé aujourd'hui les femmes qui auraient été victimes dans des affaires liées au dossier Epstein à parler, à se tourner vers la justice après la mise en cause donc du diplomate français Fabrice Heydan.
Le choc au Canada après une fusillade hier.
Oui, et le drame s'est produit à Tumbler Ridge, petite communauté isolée des Rocheuses canadiennes. La fusillade a fait au moins 10 morts hier après-midi. L'attaque s'est produite dans un lycée de cette ville de l'ouest du pays, en Colombie-Britannique. Une trentaine de personnes ont également été blessées. L'émotion s'est fait sentir. Le Premier ministre Mark Carney s'est dit bouleversé et a annoncé reporter son déplacement en Europe, prévu cette semaine. Il compte suivre la situation et exprimer son soutien aux familles touchées. Nafia Liber.
C'est un drame rare au Canada et plus inhabituel encore dans une petite communauté isolée comme Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, où une fusillade a éclaté mardi après-midi dans le lycée de cette localité de moins de 2500 habitants. Lorsque les policiers sont entrés dans l'établissement, ils sont tombés sur ce qu'ils décrivent comme une scène épouvantable. Sept corps se trouvaient à l'intérieur, ceux de six victimes qui avaient été abattues, ainsi que celui de la tireuse présumée, une femme qui se serait infligée une blessure mortelle. Par la suite, deux autres corps ont été retrouvés dans une résidence voisine que les enquêteurs considèrent comme liée à l'attaque. Les autorités font état de plus de 25 personnes blessées. L'une d'elles est décédée pendant son transfert à l'hôpital. Pour l'instant, les motivations de l'attaque demeurent inconnues. Les enquêteurs cherchent à établir des liens entre la suspecte et les victimes de cette tuerie, une des plus meurtrières de l'histoire récente du pays. Nafia Liber, Montréal, RFI.
RFI à Paris, 89 FM.
En Thaïlande, les accusations d'irrégularité pendant les législatives concernant les législatives se poursuivent.
Ces élections ont été remportées par le parti conservateur Bhumjaithai Thai. La commission électorale, l'organe chargé d'organiser le scrutin, est accusée d'être proche du pouvoir conservateur. En pleine polémique et à l'appel d'une organisation étudiante, une petite centaine de personnes se sont rassemblées devant le siège de cette institution controversée, appelant à recompter les voix à l'échelle nationale. Notre correspondant à Bangkok, Valentin Sébron.
Une rangée de policiers protège le QG de la très controversée commission électorale. Face à eux, des étudiants en colère mais calme dénoncent le manque de transparence de l'institution. Après les irrégularités qui s'accumulent autour d'un scrutin dont l'organisation a coûté 7 milliards de bahts, soit 190 millions d'euros, tous comme Gracie, 19 ans, réclament un recomptage des voix à l'échelle nationale.
La commission électorale ne fait pas son travail, c'est un manque de respect envers les citoyens et envers le pays.
La commission électorale est désignée par le Sénat, rappelle l'étudiant Karit, un Sénat conservateur proche du parti vainqueur des élections.
C'est une institution antidémocratique qui ne rend aucun compte à la population. Elle doit être réorganisée, voire remplacée.
Bourrage d'urne, manque de transparence, vote non comptabilisé. Ten Lui dénonce une fraude généralisée du scrutin.
Cette fois-ci, la corruption a été massive.
Pour Ti, 22 ans, ces fraudes n'ont peut-être pas modifié le résultat national, mais là n'est pas le cœur du problème.
Quel que soit le verdict, nous l'accepterons. C'est le principe même de la démocratie. Ce que nous demandons, c'est que le dépouillement soit honnête et que chaque voix ait une vraie valeur.
Preuve de la gravité des accusations, quatre grands partis, de la gauche à l'extrême droite, ont remis en question l'intégrité du scrutin. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Et à Hong Kong, la justice a déclaré coupable le père d'une militante pro-démocratie pour avoir géré de l'argent appartenant à sa fille, qui vit désormais à l'étranger. C'est la première décision de ce type depuis le vote d'une loi sur la sécurité nationale. Les autorités de cette région à statut spécial poursuivent les personnes considérées comme fugitives à l'étranger et ont offert des récompenses en échange d'informations permettant l'arrestation de 34 personnes accusées de menacer donc la sécurité nationale. Un moyen de répression transnationale dénonce certains pays occidentaux. Et puis, Pékin a exhorté Canberra à mener avec prudence l'arrestation de deux ressortissants chinois inculpés pour ingérence étrangère aujourd'hui. Les autorités australiennes les accusent d'avoir espionné un groupe bouddhiste pour le compte de la Chine. La Chine exhorte l'Australie à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin. Dans les Balkans, nouvelle manifestation de l'opposition en Albanie. Après la suspension de la vice-première ministre, un nouveau rassemblement anticorruption a eu lieu hier soir à Tirana. 13 personnes ont été interpellées et plusieurs autres blessées. Bonjour Magali Arouaïs. Dans le cortège, les pancartes mettent en cause le gouvernement d'Edi Rama.
Albanie, pays au parti unique, voilà ce qu'on pouvait lire sur les banderoles des manifestants hier à Tirana. Des slogans contre la corruption et puis des pierres et des cocktails Molotov jetés sur les sièges du gouvernement et du parlement albanais. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule avec des canons à eau et du gaz lacrymogène. Des manifestants rassemblés à l'appel de l'ancien premier ministre de droite et figure principale de l'opposition, Sali Berisha. Réaction du gouvernement via un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les manifestants qui se sont livrés à des violences sont, je cite, des criminels organisés. Ce mouvement de contestation fait suite à la suspension confirmée par la Cour constitutionnelle ce vendredi de la vice-première ministre Belinda Baluku, accusée de favoritisme dans des appels d'offres. Ces dernières années, plusieurs anciens ministres des gouvernements d'Edi Rama ont aussi été visés par la justice dans des affaires de corruption. Un nouveau rassemblement est déjà prévu le 20 février, porté une nouvelle fois par Sali Berisha, lui-même soupçonné d'avoir attribué des contrats publics à ses proches.
Les précisions de Magali Arouaï. C'est dans l'est de l'Ukraine. Une frappe de drone russe sur la région de Kharkiv dans l'est a tué toute une famille, un père et ses trois jeunes enfants, a annoncé tôt ce matin le parquet régional. Dans la région de Kharkiv, les forces russes ont récemment intensifié leurs attaques contre les infrastructures de transport et d'énergie. Et en parallèle, des responsables ukrainiens et russes ont mené des pourparlers la semaine dernière sous médiation américaine à Abu Dhabi pour tenter de mettre fin à l'invasion de Moscou. Les deux parties ont procédé à un échange de prisonniers la semaine dernière, mais un accord pour mettre fin à une guerre semble encore lointain. Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui pour sa part le prêt de 90 milliards d'euros pour aider l'Ukraine face à la Russie, notamment pour acheter des armes. Il sera financé par un emprunt de l'Union européenne sur les marchés financiers et les intérêts seront payés par le budget européen. L'aide militaire à l'Ukraine a par ailleurs atteint son plus bas niveau en 2025. C'est ce qu'a annoncé l'Institut de recherche allemand Kiel Institute. Et en parlant de matériel militaire, justement, Renault annonce un virage inattendu. Le constructeur automobile français pourrait assembler jusqu'à 600 drones par mois sur son site du Mans. Côté ministère des Armées, l'idée est stratégique, associer l'industrie automobile à la défense et se donner la capacité de produire vite et en grande quantité, Anne Verdaguer.
Renault parle d'une capacité de production de 600 drones par mois sur son site français du Mans. Même si le constructeur automobile insiste, seule la structure du drone sera livrée sans charge militaire. Renault va s'associer à une PME française spécialisée dans la défense sous l'égide de la Direction générale des armées. Ce contrat vise à produire des munitions téléopérées à longue portée. Pour justifier ce choix, Renault assure ne pas vouloir devenir un grand acteur de la défense et met en avant son savoir-faire d'industriel et son partenariat avec d'autres groupes européens. C'est en tout cas un symbole à l'heure du réarmement de l'Europe et des annonces d'investissements massifs dans l'industrie de la défense. La nouvelle fait en tout cas déjà polémique. Les salariés seraient sollicités sur la base du volontariat et les syndicats s'y opposent fermement. La CGT dénonce une logique guerrière et une activité qui ne correspond pas, selon elle, au contrat initial des employés.
Anne Verdaguer. Et pour finir, du cinéma, parmi les sorties du mercredi en France, on a le film Soulèvement de Thomas Lacoste. Ce documentaire très attendu livre un portrait sensible du mouvement des soulèvements de la terre entre lutte écologique et répression d'État. Elisabeth Le Quéré.
Les soulèvements sont un peu une sorte de liant, de plein de petites sources comme ça d'espoir qui nous permettent de sortir de l'impuissance collective.
16 visages, 16 parcours, c'est une cartographie humaine de la résistance écologique que propose Thomas Lacoste dans son nouveau documentaire. Il y suit les soulèvements de la Terre, ce collectif qui défend les terres et l'eau contre les projets industriels. Le point de départ, c'est mars 2023, la manifestation de Sainte-Soline contre un projet de méga-bassine et sa suite. Une répression féroce, des arrestations, l'invention du terme écoterrorisme, il n'en faut pas plus pour que le cinéaste décide de porter la lumière sur le mouvement.
On a eu l'impression qu'on donnait un peu des armes aux arbres pour se défendre.
À 11h du matin, t'as les chapiteaux qui sont déjà montés. C'est incroyable ce qui...
Son film entremêle longs entretiens et archives retravaillées en noir et blanc. On y découvre une ancienne fonctionnaire devenue éleveuse, un étudiant en histoire, ex-assistant du philosophe Edgar Morin devenu fermier, des savoir-faire qui circulent d'un territoire à l'autre. Loin du didactisme, Lacoste interroge nos liens avec la terre et le vivant, en brossant ce portrait d'une génération qui refuse de se coucher, criminalisée, alors même qu'elle défend le bien commun.
Elisabeth Le Quéré et RFI Midi continuent avec vous, Anne Cantner.
Merci Juliette Pietraszewski. Tout de suite, c'est l'actualité sportive. Bonjour Olivier Prom.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On va commencer par parler des Jeux Olympiques d'hiver en Italie, puisque le Super G homme vient de se terminer du côté de Bormio.
Et vous savez quoi ? Bah quoi ? On prend le même et on recommence.
Radio HDR.
Le mix des cultures.
Le mix de toutes les cultures. 99.1 FM.
Eh bien, cher, qu'est-ce que vous en dites ?
I was born, raised in a ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. How does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislate? Puts me in the mind of coming across the water in a boat chained tied together. They said no, they're really not men and women, just chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, chain them up, tie them up. Work, work. That's where the movement came from. Say, Lord, Lord. My children learn just the same as yours. As long as nobody tries to close the door, they cry. But when the night cuts deep, they even close their eyes. come to. I have been up on the mountaintop, and I'm free at last. I say I'm free at last. I've seen the children dying, and I've been one of the mothers who was crying. Ginga, 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 I am the woman. I am the woman. I am the woman. Yes, I said that I am. I'm the woman of the woman of the woman of the woman of the year. The ghetto at night, whole lot of pretty, some ugly sights. Along comes the sleek limousine. Say, hey baby, I got 10. Look at me, I'm clean. So she takes a little dough. What the hell, everybody got to go. I got a baby, I got a baby, I got a baby I want to feed, and I'm not really giving it all up, just a little 10-cent piece or two. The black woman. But I ain't gonna raise your babies no more, I got a few of my own, I wanna keep snow. Remember me, I'm the one who had your babies. I am a woman of a gay.
To the people, to keep it on as clean as a whistle. The governor passed out a law to the people, to keep it on as clean as a whistle. No messing about in the place. Keep your yard as clean as your face. Everyone knows the penalty. Untidiness is 6 months in custody. Up came Mr. Powell, who had something in his forehead. Went and stooped down at the side of the road. And his dear, he put down the load. Yes,
the same time a police was passing, he didn't see what for he was doing. So then he kept on walking up slowly to see if the place was tidy. Same time Powin started to tremble. As soon as he saw the constable, before the policeman knew what was wrong, Powin take off his hat and cover it down. Up came the officer and asked him, what is the matter? He said, the Queen's canary fly away, but I have him covered only. Policeman fly in a rage and ask him, why don't you get a cage? He said, I couldn't leave the birdie, so I was afraid it would fly and go. If you would keep it covered for me, I'll get a cage and come back in a hurry. The stupid policeman accepted that, stooped down by the road and hold down the hat. Oh Lord, up came an inspector and asked him, what is the matter? He said, the Queen's canary fly away, but I have him covered on day. Well, the inspector was very, very greedy, so he rushed out his car in a hurry. Because if a man holy queen is canary, his reward is supposed to be heavy. Well, without any delay, send the policeman two blocks away of all the dirty tricks upon the shelf. He wanted the reward money for himself. So then he raised the hat very slowly, feeling for the Queen's canary. But when he snatched, he holds something soft instead. He said the nasty canary dead.
HDR 99.1.
If you take a walk on this rubber dub stack, everything's fine, all is so good.
Le mythe, le culture,
go, bro. But you know I stay, bitches come and go, bro. But you know I stay, get my balls licked. Fire so we that Chanel, looking like a cocaine addict. Racist.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
Oh Chigualito, Chigualatero, Chigualito, Chigualatero.
Vous écoutez HDR 99.1.
What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain.
Committed to be something that you don't like. You don't like. 'Cause you could get all excited for nothing.
Na 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 na. Oh, why you worry?
De toutes les cultures, c'est sur le 99.1. HDR.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine. Un voyage musical sur la planète métal à travers le temps.
Radio HDR, le vendredi à 23h, on rediff le lundi à 2h.
DJ